RCF.
Voyage en récit.
Moïse Emran.
Geoffroy Scrive. Moïse, si nous discutons aujourd'hui, c'est parce que votre parcours est atypique. Nous sommes à Paris, ville, en tout cas région dans laquelle vous habitez. Décrivez-nous un petit peu votre parcours qui vous a amené ici et quel a été votre chemin de foi spirituel.
Alors, moi je suis issu d'une famille d'origine musulmane, voilà, originaire d'Afrique du Nord, du Maghreb, et j'ai eu une conversion au catholicisme par le biais de la littérature, de la culture européenne, tout largement, et de façon un peu plus restreinte par la culture française et tout particulièrement par la lecture d'un roman de Georges Bernanos qui est paru en 1936, qui s'appelle Le journal d'un curé de campagne. Voilà.
Comment avez-vous été amené à découvrir Bernanos et en particulier Le journal d'un curé de campagne? Et troisième question, que ce livre vous a-t-il apporté lors de sa lecture?
Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai lu ce roman, je lisais des textes littéraires assez régulièrement, puisque j'étais étudiant en lettres modernes à l'Université Paris 3. J'étais en master de lettres modernes. Et il se trouve que j'avais à ce moment-là un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, qui aimait Bernanos. On peut dire qu'il avait un essai qu'il avait à cœur. Il me lisait des pages au téléphone, des pages et des pages. C'était La France contre les robots. Voilà, et puis aussi un autre essai, Lettres aux Anglais, voilà. On avait parlé aussi des grands cimetières sous la lune, un autre texte de Bernanos, et il se trouve que, poussé par la curiosité, j'ai ouvert ce roman, et je l'ai lu quasiment d'une traite. Voilà, c'était un été. Je travaillais en bibliothèque, j'avais fini l'année. Et immédiatement après la lecture de ce texte, eh bien, j'ai eu envie de devenir chrétien. Voilà, j'avais trouvé finalement une annonce missionnaire par la littérature, par la culture française du mystère pascal en fait, hein, du Christ et du message de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu se fait homme pour nous rejoindre et nous sauver. Voilà. Ça, cette expérience, elle est passée par la littérature, par la culture également, puisqu'il y a la musique classique a joué aussi un rôle dans ma conversion. Et on peut dire que vraiment, l'auteur qui a su éveiller en moi ce désir de Dieu de façon certaine, ça a été Bernanos.
Au niveau de la musique classique, quelles ont été les œuvres ou les compositeurs qui vous ont touché, qui vous ont amené justement à vous élancer dans cette voie chrétienne?
Eh bien, il y a eu la première œuvre dont peut-être je pourrais parler, c'est le Stabat Mater de Pergolèse. Et il y a eu aussi le Stabat Mater, peut-être un peu moins connu, mais très beau, de Vivaldi. Il y avait aussi avant le Stabat Mater de Dvorak. Ça fait beaucoup de Stabat Mater. Et enfin, c'est vrai que j'ai découvert plus tard que ce poème était une prière. Et ça a accompagné véritablement aussi ma conversion. Comme ma mère est d'origine algérienne, kabyle, elle chantait de l'opéra, Verdi et Puccini. Voilà, elle était chanteuse d'opéra. Elle chantait en amateur, mais elle chantait beaucoup d'opéra. Et à la maison, il y avait une culture de musique classique. En plus de la culture littéraire, du théâtre, de la poésie, il y avait aussi la musique classique. Voilà. Et c'est vrai que la rencontre vraiment personnelle avec le Christ, elle s'est faite par ce roman de Bernanos.
Alors justement, ce roman, nous l'avons là. Et nous lisons dans le premier chapitre, dans les premières pages de ce livre. Il me semble que c'est le père de Torcy, personnage du roman, qui s'exprime. Il dit « Ce n'est pas ma faute si je porte un costume de croque-mort. Après tout, le pape s'habille bien en blanc et les cardinaux en rouge. J'aurai le droit de me promener vêtu comme la reine de Saba parce que j'apporte la joie. Je vous la donnerai pour rien si vous me la demandiez. L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, vous l'avez fait contre la joie. » Est-ce que ces lignes vous touchent? comment elles vous rejoignent et aujourd'hui aux célébrations auxquelles vous allez, auxquelles vous assistez, comment se manifeste en vous cette joie? Est-ce qu'il y a une véritable joie à se convertir à cette religion, à recevoir les sacrements?
Oui, alors pendant la messe, au moment de l'élévation tout particulièrement, il y a ce temps d'adoration, finalement on va contempler Jésus hostie qui se donne à voir. Eh bien, il y a cette lumière vraiment qui surgit et qui monte dans notre vie. Eh bien, cette lumière, c'est le Christ, et c'est ce qu'on voit dans le journal d'un curé de campagne, parce que finalement, dans une atmosphère qui est sombre, marquée par le péché, il y a cette lumière éclatante au milieu de la nuit qui est le Christ. Et je crois que c'est tout à fait valable pour ce roman, puisque c'est un roman d'espérance. Là, on connaît l'atmosphère de Bernanos, ça peut être celle de Monsieur Wynne, ou celle de Sous le soleil de Satan, on lui a souvent fait ce reproche d'ailleurs, à Bernanos, d'être dans la désespérance ou dans la tristesse, mais finalement, ce qu'on trouve, en tout cas le message qui m'avait touché à cette époque-là, c'est qu'au milieu des tristesses, des épreuves, au milieu de la nuit, il y a cette lumière qui est Jésus-Christ.
Alors aujourd'hui, vous habitez l'Essonne, vous vous rendez à la messe régulièrement à Paris, où nous nous trouvons d'ailleurs. Votre baptême remonte, si je ne me trompe pas, à la dernière fête de Pâques. Qu'est-ce que le sacrifice de la messe vous apporte, et est-ce que la forme justement dans laquelle c'est célébré vous importe, vous touche, et qu'est-ce que ça peut justement vous apporter?
Bien, alors j'ai été baptisé à la vigile pascale de cette année, en 2019, donc le 20 avril, dans la forme ordinaire, donc à Épinay-sous-Sénart, et je vais à la forme extraordinaire de la messe, donc à l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile depuis le mois de juin, voilà. Parce qu'évidemment, c'est une forme liturgique qui m'aide à rentrer plus profondément dans le mystère pascal, avec une pédagogie et une forme de catéchèse par la liturgie, je trouve. C'est un ami qui m'a un jour dit au cours d'une conversation que la messe Saint-Pie-V avait présentait cet avantage d'être une catéchèse qui permet de nous introduire davantage dans le mystère. Eh bien, je dirais que il a su formuler mon sentiment par rapport à cette façon de célébrer la messe. Voilà.
Donc ça, c'est un besoin tout intérieur, un besoin d'intériorité pour mieux percevoir, mieux comprendre, mieux adhérer finalement au sacrement qui est en jeu au cours de la messe. Alors évidemment, cette forme, si elle touche plus ou moins les différentes personnes, en tout cas la messe, elle permet vraiment, enfin, doit toujours retrouver, quelle que soit la forme, cette adhésion au sacrement, si je puis dire. Autre question, plus liée du coup à la culture, parce que cette émission traite essentiellement de littérature et votre chemin de foi est passé justement par la littérature. Quels sont les auteurs en dehors de Bernanos, les autres auteurs qui ont pu vous toucher et vous aider dans votre parcours?
Alors il y a eu plusieurs auteurs. Il y a eu d'abord Dostoïevski. Ça a été l'écrivain qui m'a poussé à faire des études de lettres, puisque en classe préparatoire, en prépa littéraire, en hippocagne, en cours de philosophie, nous avions abordé un chapitre des Frères Karamazov de Dostoïevski, qui est celui de la fable du grand inquisiteur. Et après la lecture de ce chapitre, j'ai eu envie de lire le roman complet de Dostoïevski, je l'ai lu. Et il se trouve que cette année-là, j'ai découvert que j'avais plus d'aptitude, on peut dire, pour la littérature que pour la philosophie, chose qui m'intéressait principalement à cette époque. J'ai décidé, après cette première année d'hippocagne, de faire une licence de lettres. Voilà. Et donc il y a eu Dostoïevski, dont j'ai lu plusieurs romans. J'ai commencé donc par les Frères Karamazov, ensuite il y a eu L'Idiot, Crime et Châtiment, Le Double, et d'autres encore que de Dostoïevski. Ça m'avait intéressé puisqu'il y avait aussi une atmosphère mystique, on peut dire. Et pour moi, la littérature, c'était aussi une quête spirituelle, comme avait pu l'être la philosophie à un certain moment donné. J'avais besoin de retrouver la présence de Dieu même sans le formuler, puisque quand j'avais quitté l'islam, ça avait, on peut dire, laissé un certain vide, un vide de Dieu, un besoin de Dieu qui est passé d'abord par la philosophie et ensuite par la littérature. Donc il y a eu d'abord Dostoïevski, il y a eu ensuite Louis-Ferdinand Céline. Ça a été la découverte du Voyage au bout de la nuit qui m'a vraiment frappé, notamment par ce style oral et très mélodieux à la fois, principalement le Voyage au bout de la nuit. Bon, c'est vrai que les Céliniens avec lesquels j'ai pu discuter ensuite étaient très, très portés sur la deuxième partie de l'œuvre de Céline, celle qui comprend d'un château l'autre, Rigaudon, les textes plus tardifs, un peu plus éclatés du point de vue de la structure, ceux qui ressemblent à des morceaux de jazz, on pourrait dire, hein, avec une ponctuation très atypique. Voilà. Bon, c'était la partie de l'œuvre de Céline avec laquelle j'avais du mal à rentrer, ce qui fait qu'on a pu dire à mon sujet que je n'étais pas très célinien à l'époque où j'étais étudiant. Bon. Enfin, il y a eu aussi Faulkner, William Faulkner, Tandis que j'agonise, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué. Surtout dans la littérature, ce que je recherchais véritablement, c'était ce qui pouvait susciter en moi un enracinement. Voilà. Puisque j'avais pu vivre dans différents endroits, j'avais vécu dans le sud de la France, j'avais vécu au Maroc, et en Ile-de-France aussi, et la littérature, c'était pour moi aussi à la fois une recherche de Dieu, mais aussi la recherche du Père, d'un lieu finalement où poser mes racines. Et c'est pour ça que Barrès a été l'étape, on peut dire, qui a suivi, et l'étape qui a précédé ma conversion, puisque ça a été la lecture d'un roman qui est aujourd'hui un peu moins connu, qui s'appelle « Les Déracinés » de Maurice Barrès. Voilà. Et cette question de l'enracinement, justement, elle s'est posée à travers ce roman pour moi. Voilà. Mais d'une façon, disons, d'abord littéraire, et disons du point de vue de la pensée littéraire, d'abord, avant d'entrer dans le religieux, puisque chez Barrès, on effleure le religieux sans y atteindre véritablement. Voilà.
Et alors justement, vous parlez d'enracinement, vous me voyez peut-être venir, et justement l'enracinement chez Simone Veil, l'avez-vous lu et qu'en pensez-vous ?
Alors justement, on m'a beaucoup parlé de ce texte, mais j'admets ne l'avoir jamais lu. Voilà.
Alors ce fera peut-être l'objet d'une autre conversation sur cette émission. Et Peggy, parce que dans les auteurs et écrivains français catholiques, Peggy occupe une place quand même assez prépondérante. Au départ, il ne l'était pas. Il a été socialiste toute sa vie, mais il a un attachement. Il était contre l'anticléricalisme. Donc, est-ce que la littérature de Peggy vous a-t-elle touché?
Oui, eh bien, Peggy, ça a compté dans mon parcours de conversion, puisque mon meilleur ami a fait son mémoire sur Peggy pendant que je faisais mon mémoire sur Barrès. Et comme il se trouve que ces deux auteurs qui ont amené à se croiser et qui ont vécu dans le même contexte culturel, à savoir celui de la fin du 19e siècle et de l'affaire Dreyfus aussi, dans lesquels ils ont tous les deux évolué avec des positions diamétralement opposées, ça a été en tout cas une figure qui a compté pour moi, puisque mon meilleur ami, à ce moment-là, m'a poussé à lire Peggy. D'abord L'Argent, qui est un texte sur la disparition du métier dans le monde moderne, dans le monde industriel, la disparition de l'artisan, d'un rapport humain à la matière, c'est-à-dire qu'il soit pas conditionné par la technique et par une place prépondérante de la technique dans les travaux humains. Et bien c'est un texte qui m'avait touché d'abord, et il y a eu ensuite un autre texte qui s'appelle Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui là est un très beau texte mystique sur la passion. Et donc, évidemment, ça a été également l'un des auteurs par lesquels j'ai été familiarisé avec la culture chrétienne, mais aussi avec le message évangélique. Peut-être moins clairement qu'avec Bernanos, puisque disons que le roman par lequel j'ai fait cette rencontre personnelle, ça a été Le journal d'un curé de campagne, mais disons que Charles Peggy a contribué à m'imprégner d'une culture chrétienne qui est passée par la littérature, que je ne pouvais pas avoir dans ma famille musulmane pratiquante, ou dans ma famille de culture maghrébine, puisque ou même parmi les milieux de culture française, mais de culture anticléricale, pour ainsi dire, qui est assez répandu, je crois, dans le milieu littéraire, puisque dans le... être aussi tranché, on peut dire qu'il y a les deux tendances. Il y a une tendance qui n'est pas hostile au christianisme, mais sans toutefois être dans... automatiquement dans une bienveillance vis-à-vis de tout ce qui relève de la piété ou de la dévotion. Ou alors une attitude de... carrément hostile, voire de dérision. Mais finalement, de voir la religion chrétienne présentée positivement, et catholique en particulier, ça n'avait pu passer que par des auteurs comme Peggy, oui, effectivement. Voir ça comme quelque chose de positif. Ça, c'était l'occasion, en tout cas, par lequel j'ai perçu la religion positivement. Voilà.
Et y a-t-il des écrivains actuels, encore vivants, bien vivants, qui vous touchent, justement, et qui égayent ce chemin de foi? Peut-être, je ne sais pas... François Cheng, par exemple, qui a écrit notamment un livre sur l'âme.
Alors, mon parrain m'a parlé de François Cheng. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Voilà, c'est avec plaisir, j'en aurai l'occasion. Mais c'est vrai que dans la littérature contemporaine, sur le plan littéraire et esthétique, il y a des choses qui m'ont touché, notamment Pierre Michon et ses Vies minuscules. Mais c'est vrai que sur le plan spirituel... Les rencontres que j'ai faites, ça a été principalement par le biais d'auteurs de la fin du 19e siècle, ou du début du 20e siècle, voilà, qui était la période privilégiée où j'ai lu pendant mon mémoire de master, puisqu'il portait sur Barès. D'abord sur une trilogie de romans qui s'appelle Le culte du moi, et ensuite sur une autre trilogie de romans qui s'appelle Le roman de l'énergie nationale, qui composait des Déracinés, de l'appel aux soldats, et d'un autre roman qui s'appelle Leur figure, voilà. Et dans les trois premiers romans, en fait, sont plutôt axés sur la vie individuelle, et avec une tendance à ce que lui appelle l'égotisme. Et c'est-à-dire qu'il voit que c'est une impasse. Et donc l'enjeu, c'est de passer de la vie personnelle à la vie collective. Et c'est-à-dire que l'individu se découvre en fait pauvre et nu lorsqu'il est seul. Et finalement, Barès s'aperçoit que sa vie n'a de sens qu'en tant qu'elle est liée à celle des autres. Voilà. Et c'est peut-être, ça a été peut-être pour moi le premier pas dans la conversion. Barès écrit « Penser solitairement, c'est s'acheminer à penser solidairement ». Finalement, on retrouve aussi ça dans l'œuvre d'Albert Camus, en particulier dans « Le premier homme », qui est son dernier roman, un roman inachevé. C'est d'ailleurs, en fait, en allant voir la tombe d'Albert Camus à Lourmarin. Voilà, demain ce sera le jour des morts, donc le 2 novembre. Il y a d'ailleurs un texte de Barès qui s'appelle « Le 2 novembre en Lorraine ». Et nous étions allés avec mon meilleur ami et ma mère, en fait, à Lourmarin sur les pas d'Albert Camus, en fait, qui a une partie de sa vie en Algérie aussi, parce que ma mère est d'origine algérienne. Et en fait, nous étions allés à Lourmarin à l'occasion, je lisais aussi Le premier homme, parce que j'allais avoir un séminaire d'université là-dessus, et, sur cette œuvre. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé sur Les Déracinés de Maurice Barrès. Voilà. Sur la question justement de la personne, finalement, découvrir, et c'est là que ça rejoint l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire que nous ne sommes justement pas des individus, nous sommes des personnes. Voilà. Notre être nous est donné par le lien. Voilà. C'est aussi dans l'expérience du Dieu trinitaire que j'ai réalisé finalement que, à l'image de la Trinité, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes à la fois solitaires et solidaires. Nous sommes solitaires parce que nous avons notre personnalité que Dieu nous a donnée, mais en même temps, notre personnalité se révèle dans le lien, comme dans la Trinité finalement. Et ça a été pour moi l'expérience fondamentale de la découverte finalement que Dieu respectait notre liberté, notre singularité, et tout en voulant pour nous d'être lié le plus possible. Voilà.
En tant que nouveau baptisé, avec tout ce chemin à la fois spirituel et culturel, êtes-vous parfois consterné du manque d'action que nous autres chrétiens de naissance pouvons avoir, notre peut-être inaction, à la fois pour témoigner de notre foi auprès de ce monde souvent sans Dieu, souvent athée ou agnostique? Mais est-ce que ce manque de témoignage vous touche dans le sens où peut-être avez-vous pu penser, en gros, si je mets les guillemets, « Eh les gars, réveillez-vous, il y en a d'autres qu'il faut toucher, peut-être par notre culture ». Comment un chrétien aujourd'hui, selon vous, peut-il s'engager? Et, deuxième question, la culture est-elle un terreau favorable à cela? Alors qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, le domaine littéraire est souvent à l'opposé, politiquement ou socialement parlant, des valeurs chrétiennes. Mais comment témoigner de notre foi, justement par la culture, dans les faits aujourd'hui?
Eh bien, je pense que ce qui peut nous conforter, en tout cas, dans le fait que nous avons une culture et un héritage à la fois culturel et spirituel inestimable, c'est de réaliser les trésors du patrimoine français, la littérature, la musique, et européen aussi, l'art, et de se dire finalement que derrière, il y a la relation, l'alliance avec Dieu qui a nourri tout cela. et que ce qui donne cet attrait particulier à l'art, à la littérature, à la culture française et européenne, c'est véritablement toute la nourriture spirituelle qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà. Et ça a été mon cheminement à moi. Donc finalement, c'est de humblement rendre grâce, je pense, pour tous ces dons reçus et ne pas hésiter à les transmettre. À les transmettre aussi dans le témoignage personnel, mais aussi dans l'annonce missionnaire, c'est-à-dire ne pas hésiter à parler de Dieu, finalement, aux non-catholiques et aux musulmans également, et à leur parler du Christ, à leur parler de Dieu, et à leur dire que c'est pour eux également, finalement. Et c'est à partir du moment où j'ai constaté, en lisant ce roman de Bernanos, que le Christ s'adressait à moi aussi, et que finalement, le catholicisme, c'était pas seulement l'islam des Français de souche, entre guillemets, mais que c'était pour chacun, pour chaque personne, que le Christ était venu pour chaque personne, que j'ai osé franchir le pas et demander le baptême. Et aujourd'hui, je pense que si chaque catholique avait l'occasion, au moins une fois par semaine, de rencontrer un musulman et de lui dire que le baptême, c'est pour lui aussi, eh bien, ça changerait beaucoup de choses, parce qu'il y a vraiment des personnes qui n'entendent jamais cela, vraiment, des musulmans en tout cas, et je pense que ça pourrait faire changer les choses, voilà.
Qu'est-ce que cela suppose de prendre conscience du trésor de notre foi, nous qui sommes peut-être 2 ans parfois depuis la naissance sans nous poser trop de questions? Est-ce que cela demande donc cet éclairage? Est-ce que cela nécessite aussi un certain courage, une certaine abnégation? Comment ont été justement les premiers chrétiens que vous avez rencontrés par rapport à ça? Ont-ils été dans le secret? Ont-ils été dans la précaution? Ont-ils été au contraire vent debout contre votre demande? L'ont-ils accepté? L'ont-ils accueilli avec gentillesse ou avec beaucoup de flamme?
Eh bien, on peut dire que j'ai fait de bonnes rencontres. La plupart des personnes qui m'ont entouré pendant ce parcours de conversion étaient bienveillantes avec moi, accueillantes. Elles ont su faire preuve de discrétion quand la discrétion s'imposait, et elles ont su aussi me soutenir publiquement quand voilà, c'est le soutien public était de mise. Et donc je dirais que globalement, j'ai été au long de mon parcours épaulé, compris et accompagné de façon appropriée en fonction des moments. J'ai eu vraiment la chance de tomber sur une équipe de préparation au baptême qui était tout à fait courageuse, et un parrain tout aussi courageux qui a su me conduire jusqu'au baptême. C'était pas facile, hein, bien sûr, puisque on sait que voilà, ça demande de la préparation spirituelle.
Alors aujourd'hui, cette équipe vous entoure-t-elle encore, vous accompagne-t-elle toujours?
Alors aujourd'hui, j'ai rejoint l'équipe d'accompagnement au catéchuménat de ma paroisse, où voilà, j'accompagne un catéchumène, donc j'ai toujours des liens. C'est vrai que je vais plutôt à l'église sur Paris, à la forme liturgique extraordinaire donc, mais j'ai toujours à cœur de garder des contacts avec la paroisse où j'ai été baptisé et où j'accompagne un catéchumène.
Vous a-t-on parlé d'essoufflement potentiel à venir? Et si oui, comment pouvez-vous l'appréhender? Parce qu'on peut imaginer qu'après un baptême, on peut être dans le feu de l'esprit, qui est aussi le feu de l'action, le feu de la réception de tout ce qui nous touche, tout ce qu'on reçoit, de tout ce qu'on voit. Est-ce que la culture, le recours à des textes liturgiques ou profanes ou d'auteurs parlant de leur foi vous importe-t-elle pour lutter contre ce potentiel essoufflement?
Oui, alors bien sûr, je suppose que je suis encore jeune chrétien, mais je pense que dans la foi, il y a toujours des hauts et des bas, bien sûr. Et pour ça, je pense que la principale arme que nous avons, eh bien, c'est la prière quotidienne, et de ne pas se reposer sur ses propres forces, mais sur celles de Dieu, bien entendu. Je crois que c'est des choses qui peuvent aider. Et aussi, j'essaye de garder un lien avec la mission vers les musulmans à travers mon engagement et ma participation à l'association Mission Angelus, la bonne nouvelle du Christ annoncée aux musulmans, qui est présidée par Jean-Yves Nériac, voilà, et aussi de témoigner au Forum Jésus le Messie, comme ça a pu être le cas à Brest notamment, et aussi comme ce sera le cas à Toulon le 17 novembre, à Lille également au mois de décembre et à Paris au mois de février et à Viroflay également, près de Versailles, une édition pour les jeunes. Donc j'essaye finalement de ce que j'ai reçu en abondance, de le transmettre à mon tour. Je pense que ça pourrait être une façon de tenir, je l'espère, de persévérer bien sûr. Et je pense qu'évidemment, pour ne pas céder au moment difficile, eh bien, il est important de garder finalement un lien très concret à la fois par des actions autant qu'il est possible de ce type.
Est-ce que c'est là votre espérance que de toucher justement tant les chrétiens que d'autres personnes n'ayant pas cette foi par le biais de ces forums, de ces rencontres, parce qu'il y a vraiment des rencontres humaines, très personnelles, je pense, lors de ces forums. C'est là une réelle espérance ?
Oui, parce que je rencontre autour de moi beaucoup de catholiques qui sont désireux de partager le Christ autour d'eux, dans l'annonce missionnaire qui est voulue par l'Église, bien sûr. C'est le Concile Vatican II en particulier, qui a mis l'accent sur la mission chez les laïcs, et notamment Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptoris Missio, qui insiste particulièrement là-dessus. Donc oui, de rencontrer des personnes à travers ces différents forums qui ont aussi le désir de se former sur l'islam et sur la manière de parler de Dieu aux musulmans.
Peut-être que pour finir justement cette très belle rencontre avec vous, Moïse, souhaiteriez-vous nous lire, puisque cette émission est consacrée à la lecture, quelques lignes de Bernanos ?
Oui, bien sûr, c'est un moment sur du roman, ou une conversation entre le jeune curé d'Ambricourt et une jeune femme qu'il rencontre, et c'est sur l'espérance. Enfin, lui dis-je, votre vie est dure. Ne désespérez-vous donc jamais. Elle a dû croire que je lui tendais un piège. Sa figure est devenue sombre, attentive. N'êtes-vous jamais tenté de vous révolter ? Non, m'a-t-elle répondu. Seulement, des fois, je n'arrive plus à comprendre. Alors, c'est des idées qui viennent quand on se repose. Des idées du dimanche que j'appelle. Des fois aussi quand je suis las, très las. Mais pourquoi me demandez-vous ça ? Par amitié, lui dis-je, parce qu'il y a des moments où moi-même, son regard ne quittait pas le mien. Vous n'avez pas bonne mine non plus, monsieur, faut être juste. Eh bien donc, lorsque je ne suis plus capable de rien, que je n'y tiens plus sur mes jambes, avec mon mauvais poing de côté, je vais me cacher dans un coin toute seule et vous allez rire. Au lieu de me raconter des choses gaies, des choses qui remontent, je pense à tous ces gens que je ne peux connaître pas, qui me ressemblent. Et il y en a, la terre est grande. Les mendiants qui battent la semelle sous la pluie. Les gosses perdus. Les malades. Les fous des asiles qui gueulent à la lune. Et tant. Je me glisse parmi eux, je tâche de me faire petite. Et pas seulement les vivants, vous savez. Les morts aussi, qui ont souffert. Et ceux à venir, qui souffriront comme nous. Pourquoi ça ? Pourquoi souffrir ? Qu'ils disent tous. Il me semble que je le dis avec eux. Je crois entendre, ça me fait comme un grand murmure qui me berce. Dans ces moments-là, je ne changerai pas ma place pour celle d'un millionnaire. Je me sens heureuse, que voulez-vous ? C'est malgré moi, je ne me raisonne même pas. Je ressemble à ma mère. Si la chance des chances, c'est d'avoir pas de chance, qu'elle me disait, je suis servie. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Et pourtant, elle a été mariée deux fois, deux ivrognes, une guigne. Papa était le pire. Un veuf avec cinq garçons. De vrais diables. Elle était devenue grosse, à ne pas croire, tout son sang tournait en graisse. N'importe. Il n'y a rien de plus endurant qu'une femme, qu'elle disait encore. Ça ne doit se coucher que pour mourir. Elle a eu un malaise qui la prenait à la poitrine, à l'épaule, dans le bras. Elle ne pouvait plus respirer. Le dernier soir, papa est rentré fin sous, comme d'habitude. Elle a voulu mettre la cafetière sur le feu. Elle lui a glissé des mains. Sacrée bête que je suis, qu'elle a fait. Cours chez la voisine en emprunter une autre et revient dard, crainte que le père se réveille. Quand je suis rentré, elle était quasi morte, un côté de la figure presque noir, et sa langue passait entre ses lèvres, noire aussi. Faudrait que je m'étende, qu'elle a dit, ça ne va pas. Papa ronflait sur le lit. Elle n'a pas osé le réveiller. Elle a été s'asseoir au coin du feu. Tu peux maintenant mettre le morceau de lard dans la soupe, qu'elle a dit encore. Lave-la qui boue. Et elle est morte. Et en fait, ce passage qui m'a vraiment touché dans ce passage, c'est finalement l'espérance. C'est-à-dire que sur le point de mourir, la dernière des paroles de cette femme, c'est « Eh bien, tu peux mettre le lard dans la soupe. » C'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle faisait tous les jours jusqu'au dernier moment. Finalement, on pourrait dire que la sainteté, c'est ça. C'est devant la mort, faire tout ce qu'on a fait toute sa vie, des choses très simples, vraiment, sans s'interrompre. Voilà. Ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé, pour parler de l'espérance.
Eh bien, merci pour cette espérance. Merci, Moïse.